Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Bruno Cocatrix aurait fait du 28 boulevard des Capucines une adresse mythique du music-hall et de la chanson. À sa disparition, son épouse Paulette, sa fille Patricia et son neveu Jean-Michel Boris ont repris le flambeau. En 1997, s'ouvrait la nouvelle salle de l'Olympia, construite quasiment à l'identique et à quelques mètres de l'ancienne. Ce fut Gilbert Bécaud qui en essuya les plâtres. En 1954 déjà, Monsieur 100 000 volts était au premier programme d'un Olympia rendu à la chanson, après avoir été longtemps un cinéma. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. En 2001, la salle a été rachetée par Vivendi, avant de tomber dans l'escarcelle du groupe Bolloré en 2015. Mais quand en 1991, pour l'émission Opus, Thierry Aveline nous racontait l'histoire de l'Olympia, c'était dans la visite de l'Olympia d'avant, celui de la famille Cocatrix, qui nous entraînait à la rencontre de ceux qui faisaient vivre cette salle parmi les plus prestigieuses au monde. Pour toujours, son nom Olympia vibre des voix de Brel, Aznavour, Piaf, Ferret, Trainé, Barbara, Brassens, Bécaud, Montand et beaucoup d'autres. Opus, l'histoire de l'Olympia, par Thierry Aveline, en 1991.
Jean-Michel Boris, nous allons sur le trottoir, devant, sur la façade du music hall.
Il faut pousser pour sortir. Ouais. Il ne faut pas prendre l'effort à faire pour retirer. Le hall d'entrée, c'est encore ce qui a le moins changé. Parce que vous voyez ce que... L'espèce de dôme là en étoilé, ça, c'est un dôme d'époque. Oui, ce système, à l'intérieur des étoiles, il y avait des lampes et tout ça. Bon, ben tout ça, il y a dû laisser aller, il faut bien dire. Mais il est dans notre intention de changer un petit peu ce système-là. Et alors, en plus, comme Bruno a fait construire ce pub, là, avant il y avait la taverne, toute l'organisation de l'entrée était un petit peu changée. Et surtout la façade, parce qu'à l'époque, au début... La façade, il n'y avait pas de néon comme ça, il y avait juste le nom de l'artiste au néon, et puis derrière, dans l'espace que vous voyez là, il y avait un panneau peint. Et puis les noms des vedettes, des autres vedettes, accrochés en petites lettres sur les côtés. Ouais. Vous verrez les photos, c'est complètement différent.
Alors moi qui suis un vieux parisien, mais qui suis parisien depuis toujours, je peux vous dire que je ne passe pas une seule fois devant l'Olympia,
sans regarder
oui, qui est à l'affiche.
Ben, vous voyez, mais c'est bien normal. Donc, on a bien réussi notre coup. Et on a, après, à un moment donné, on en a souvent parlé avec Bruno, on cherchait des solutions. Et puis, on a fait cette solution du lettrage qui est quand même assez connu maintenant dans le monde entier. Hein, et puis, cette façade qui est blanche et les lettres rouges ressortent bien sur le fond.
L'Olympia, ce que ça représente pour moi, je sais pas, des souvenirs surtout d'enfance, puisque bon, mes parents étaient des fans, je dirais, d'Yves Montand. Et bon, l'Olympia, les premières fois que j'en ai entendu parler, c'était par rapport à Yves Montand, Yves Montand à l'Olympia ou Jacques Brel à l'Olympia. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont marqué.
Je pense qu'en même temps, on en entend beaucoup parler. C'est vrai que tout à l'heure, on se disait, on n'est jamais venu à l'Olympia, c'est... Bon, quelque part, on a besoin de connaître aussi, on en entend beaucoup parler.
Je reviens aux vieilles salles parisiennes parce qu'il y a une atmosphère, il y a souvent un humour, des petites choses comme ça qui reviennent beaucoup plus. Quoi.
Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ici ?
Ben, c'est magique. Je crois que ce serait plutôt le mot magique, il faudrait dire. Et puis, il y a une ambiance qui n'existe pas dans toutes ces grandes salles froides qui sont un peu faites pour faire rentrer de l'argent et pas vraiment des gens.
Voilà, je crois que
c'est une connotation de... Je dirais, Lola, quand un chanteur... Oui, voilà, c'est ça, c'est une connotation de réussite par rapport à la carrière d'un chanteur, je pense, que de passer à l'Olympia. Et c'est vrai que c'est toujours c'est un plus de venir voir Olympia. Bon, c'est vrai qu'on vous dira ça à la sortie.
Tu vas être terriblement méchante. Parce que ça doit être certainement une salle de spectacle avec une longue histoire, mais je trouve qu'elle est complètement croulante et qu'il serait temps de la refaire, de la moderniser un peu et de lui donner du dynamisme, un nouveau souffle.
Mais ça va faire peut-être un peu ancien combattant, mais moi c'est Johnny Hallyday, c'est les premiers fauteuils cassés.
Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les poux.
Souvenirs, souvenirs. Eh oui, l'Olympia rappelle sans doute à beaucoup d'entre nous des souvenirs tous différents selon la génération à laquelle nous appartenons. 36 années d'Olympia, rendez-vous compte, avec en moyenne 15 à 20 spectacles par an. C'est dire si cet opus n'aura donc pas la prétention d'être une historique complète du lieu, ni de faire entendre toutes les voix d'artistes qui s'y sont produits. D'ailleurs, Paulette Cocatrix m'a confié que lorsqu'elle a voulu intégrer à son livre « Les coulisses de ma mémoire » tous les programmes de l'Olympia dans leur chronologie, elle a eu beaucoup de difficultés, car l'Olympia, curieusement, n'a presque pas d'archives. C'est Jean-Michel Boris qui va nous guider à travers cet opus dans une visite sonore de tous les lieux qui composent le music hall, ce qui va lui donner l'occasion de raconter quelques anecdotes importantes. Et puis bien sûr, nous entendrons aussi Paulette Cocatrix ouvrir pour nous quelques portes des coulisses de sa mémoire. Paulette Cocatrix, Jean-Michel Boris, il manque une troisième personne au triumvirat directorial de l'Olympia. Et justement, nous l'avons surprise. Pendant la première de Paolo Conte, soir de général, à quelques pas du contrôle.
Bon, cette maison, elle représente que des moments heureux. Ouais. J'ai vu cette maison s'ouvrir en 54. Je ne suis pas née dans cette maison, mais j'y ai vécu et habité au quotidien. J'y travaille depuis 58. Et je n'ai que des souvenirs extraordinaires et j'ai vu beaucoup de gens débuter, j'ai vu tout le monde débuter.
Patricia Cocatrix, je voulais simplement vous surprendre comme ça pour dire que la famille Cocatrix a toujours été là dans les petits coins.
C'est du permanent.
Vous êtes à l'accueil, presque incognito. Hein.
Ah oui, absolument. Mais c'est à partir de 9h du matin, vous savez, cette maison, elle tourne quoi qu'il arrive 24h sur 24. Ouais. Alors là, c'est la récompense. C'est-à-dire qu'on fait d'autres choses toute la journée, on prépare le spectacle, tout ce qui a trait au spectacle ou à la maison. Proprement dit. Mais alors à cette heure-ci, c'est la récompense parce qu'on voit le rideau rouge s'ouvrir et enfin on a la vedette que l'on aime.
Qu'il se lève le rideau rouge du théâtre de maintenant où l'on vient contre un peu d'argent frissonner avant qu'il ne bouge les artistes. Qui se prépare, font trembler un peu le rideau, et c'est ça qui met sur la peau cet immense frisson bizarre, l'artisan des métamorphoses. Mais bien sûr qu'un simple mortel, mais s'il prend des airs éternels, c'est qu'il joue Pierrot à la rose. Car toute la magie du rêve est contenue dans ce détail. Un rideau de velours corail qui tremble un peu et puis se lève.
J'ai l'impression que les générales aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles ont pu être dans les années 60 ou peut-être au démarrage autrefois.
Elles pourraient l'être et moi j'ai fait, mon père adorait ça et l'époque s'y prêtait, les vedettes aussi. Donc je faisais moi-même, puisque c'était mon métier à l'origine. Avant la disparition de mon père. Donc j'ai fait organiser les plus belles soirées.
C'est vrai que vous avez été l'attaché de presse de l'Olympia pendant longtemps.
Et j'ai vécu des choses merveilleuses. Ouais. Il s'avère que les vedettes à l'heure actuelle ne veulent plus de général ou acceptent qu'il y ait un mélange de la presse, des médias, avec quelques invités privilégiés ou amis.
Alors qui attendons-nous ce soir? Autrefois il y avait le Tout Paris, c'est plus tout à fait ça.
Mais disons que le Tout Paris, vous le trouvez au cours de toute la série du spectacle. C'est-à-dire que tous les soirs, il y a des imprévus.
Puis se lève.
Il a cassé mes premiers fauteuils.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
C'est le plus grand professionnel du spectacle. C'est pour moi la découverte de la poésie dans la chanson.
Il n'y a plus dans cette ville la joie qu'il y avait avant. Dans le temps, je suis perdue dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais pourtant.
Dans le temps, c'est une grande revanche contre l'Angleterre, car finalement c'est une vedette française. Les Beatles, ce sont des gens très bien organisés et eux aussi sont de grands professionnels. La plus grande folie est parfaitement contrôlée. Ah, Joséphine Baker, c'est un très grand personnage. C'est un très grand personnage et c'est une femme très exceptionnelle, avec aussi une fantaisie un peu particulière, mais il y a tellement de bonté dans Joséphine et tellement de gentillesse. C'est certainement une de celles qui me touche le plus.
I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees.
Polanka, il a été le premier à introduire, si je peux dire, le rock'n'roll en France. Et bien avant que Johnny Hallyday et tous ces gens-là viennent au monde, même, si je peux dire, tout au moins artistiquement.
Au suivant.
Ah, Jacques Brel, c'est un des personnages les plus intéressants de ce métier. En fait, Jacques Brel n'est pas un chanteur. C'est un tribun, Jacques Brel. Un tribun, il avait quelque chose à dire, il s'est trouvé qu'il l'a dit en musique, il s'est trouvé que personne ne chantait ses chansons et qu'il les a chantées lui-même parce que c'était le seul moyen de les faire connaître, il s'est trouvé qu'il le faisait très bien finalement. Car ses chansons, aussi belles soient-elles, elles n'ont vraiment un sens que lorsque lui-même les hurle au public.
Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient...
Bruno n'était pas partout. Bruno n'a jamais mis les pieds dans la salle un soir de
général. Ouais.
Jamais.
Et pourquoi ?
Il était derrière. Jamais. Ouais. C'était comme ça.
Et alors, Madame Cocatrix, je sais qu'il y a un rang qui vous est réservé avec votre place.
C'était autrefois, ça.
Ouais. C'est fini.
C'est fini.
Ouais. Parce qu'avant, c'était le rang F.
F, absolument.
Voilà.
Mais je venais en spectatrice à ce moment-là.
Oui, vous veniez en spectatrice, mais vous aviez aussi l'œil critique.
C'est la moindre des choses.
Ouais. Et pourquoi ça a été le rang F ? C'est comme cela, par hasard ?
Parce que c'était le meilleur, au point de vue son.
Est-ce que vous avez le cœur qui bat à chaque général, comme
Bien
il a
sûr.
Dû battre au début de Piaf, au début de Jacques Brel ?
À chaque fois, j'ai le trac.
Quel est votre meilleur souvenir de général? Est-ce que c'est Piaf? Est-ce que c'est Brel?
Le meilleur, je ne peux pas vous dire. Ouais. Parce qu'il y a des souvenirs de général. Vous me demanderiez le pire, à la rigueur, je serais.
Mais allons-y, le pire.
Le pire, ça a été la fois où Gilbert Bécaud, qu'on adore et qui nous adore et qui fait partie de la maison, a eu tout d'un coup la voix qui s'est cassée. Et il n'a pas pu chanter. On a été obligé de baisser le rideau et de s'excuser auprès des invités. Et alors, on a assisté là à une chose extrêmement curieuse. On avait invité pas mal de gens et il y en a le triple qui est allé se faire rembourser. Donc ça, c'est assez frappant. Hein.
Et est-ce que vous vous souvenez de la toute première générale, celle avec Lucienne Delisle, Aimé Barelli et un jeune débutant du nom de...
Qui n'avait pas cette fois-là le trac.
L'atmosphère ne devait peut-être pas être tout à fait pareille qu'aujourd'hui.
Non.
Hein.
Oh non, c'était pas pareil. D'abord, il y avait 2000 personnes dans la salle, mais il y en avait autant qui attendaient dehors. Hein. Je crois que les gens n'attendaient qu'une chose, c'était l'ouverture de l'Olympia.
Qui y avait-il dans les 3 ou 4 premiers rangs qui sont généralement...
Vous savez, on n'avait pas fait ça très bien parce qu'on ne savait pas encore du tout ce que ça allait donner. Il n'y avait pas les gens qui, les journalistes que, il y avait les gens qu'on avait invités qui avaient bien voulu venir. C'est tout. C'était pas une des premières les plus brillantes, sûrement pas.
Enfin, c'est une première qui a compté, en tout cas pour Gilbert Bécaud.
Pour lui et pour nous.
Ouais. Et pour vous aussi.
Et pour nous, donc, parce que ça a été le début, ça a été le premier jour.
Quand doucement tu te penches en murmurant ces dimanches, si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent, et dans un même sourire, nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins de folles promesses, qu'au fil de l'eau leur écho va compter, ouïe-moi nos effrontés. Et dans tes bras qui m'enchaînent, en écoutant les sirènes, je laisse battre éperdu de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. De l'amour bohème,
Lucienne de Lille, accompagnée par Aimé Barelli. C'était donc le 5 février 1954, première générale de l'Olympia. Dans ce premier spectacle, se produisait aussi un jeune débutant nommé Gilbert Bécaud.
Vraiment, je sais qu'il y avait une belle pagaille, parce que c'était un cinéma donc construit pour être un cinéma, avec une petite scène étroite et tout ça, et qu'on faisait le musical dans une scène étroite comme ça.
Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à l'Olympia ?
Eh bien, c'est une scène et une salle habitée, vous savez, vous avez des églises dans lesquelles on prie mieux que dans d'autres, et vous avez des théâtres où l'on chante mieux que dans d'autres, parce qu'ils sont, on a l'impression qu'ils sont habités, vous savez, quand vous allez au bar, vous y rencontrez Brel, vous y rencontrez Brassens, vous y rencontrez beaucoup de camarades à moi qui sont partis et ça se sent.
Bruno Cacatrix, vous l'avez rencontré à quelle occasion ?
Oh, il y a très longtemps, quand il était compositeur d'opérette et qu'il écrivait des opérettes et qu'il était aussi impresario, un peu comme ça. C'était un homme de spectacle, vous savez. Donc il est un peu touché à tout. Et il écrivait de bonne musique d'ailleurs.
Ouais.
Oh ouais.
Clopin,
c'est pas mal. Hein. Et un jour, on se connaissait quoi comme ça. Et un jour, il me dit, est-ce que tu veux, je viens de m'arranger pour avoir un théâtre sur les boulevards. C'est un cinéma, mais on va le transformer en musical. Est-ce que tu veux venir chanter? Je dis, je sais pas, moi je débutais, vous savez, on sait pas, on dit, on sait pas quoi répondre, on sait pas s'il faut le faire ou pas le faire, enfin, on est perdu. J'ai dit, il me dit, écoute, fais ma confiance, viens. Et je suis allé, et voilà. Et je n'ai pratiquement jamais chanté ailleurs à Paris qu'à l'Olympia.
Je m'en vais, papa, en promenant mon cœur d'enfant, comme savant les hirondelles, la vie s'enfuit à tirer d'elle, ça fait si mal. Oh, quelques fois qui sont ma sœur, le père, le père. Le père, le
Clopin, Clopin, enregistré par Lionel Hampton à l'Olympia. L'Olympia dont les destinées ont commencé bien avant que Bruno ne les prenne en charge, Paulette Cocatrix.
À bientôt un siècle.
Ouais.
Ça a été tout. Ça a été des montagnes russes,
oui.
Ça a été un style musée Grévin avec des statuettes de cire, ça a été tout ce qu'on veut, jusqu'au moment où celui qui a construit ces fameuses montagnes russes, les avaient construites en bois. Et alors, la préfecture de police lui a retiré le permis parce qu'ils avaient peur des incendies. Alors, il a reconstruit en fer et c'est devenu sensiblement ce que c'est maintenant.
Et il y a un personnage qu'on peut peut-être citer qui est Joseph Holler.
Oui, c'est le créateur.
Ouais, ouais.
C'est le créateur de l'Olympia. Il a créé plein de choses.
Alors, vous avez écrit un livre avec vos souvenirs, Les coulisses de ma mémoire.
Oui, c'est un joli titre. Hein.
Ah oui.
Ah bon.
Vous vous racontez un petit peu, en préambule de vos souvenirs, cet historique de l'Olympia. Ça a été le premier musical, c'est-à-dire qu'il y a eu le CAF-CONS.
Il y a eu le CAF-CONS et il y a eu le musical, mais pour une raison très simple, c'est que Joseph Holler voulait changer. Il ne voulait pas que ça s'appelle CAF-CONS. Et comme il ne parlait pas l'anglais, il a demandé à un ami... comment dit-on en anglais musique ? On a dit musique. Et comment dit-on un hall ? J'ai dit un hall. Et c'est devenu musical aussi bêtement que ça.
Ah oui. Alors il y a eu d'autres directions. Il y a eu les frères Isola.
Il y a eu les frères Isola, ouais, qui ont eu beaucoup de choses en même temps, puisqu'ils ont eu aussi Mogador.
Et puis il y a eu un autre personnage fort important dans le monde du spectacle, c'est Jacques Charles.
Jacques Charles. Oui, mais Jacques Charles, c'était tout à fait autre chose. Ouais. Lui, c'était... Il mettait en scène, il produisait des revues. Mais c'est pas autre chose, il n'était pas directeur de théâtre, il produisait des revues. Et puis ça a été, après ça, occupé par les Allemands, qui l'avaient réquisitionné pour faire un cinéma pour leur armée, ensuite par les Américains, et quand nous on l'a récupéré en 52, c'était dans un triste état. Hein.
À l'époque où j'ai ouvert l'Olympia, il n'y avait plus de music hall à Paris. Et il fallait redonner un peu le goût du music hall et toucher par conséquent des couches anciennes, mais surtout des couches nouvelles de population. Et comme les grandes vedettes hésitaient avant de passer dans un établissement nouveau, enfin hésitaient à essuyer les plâtres, j'étais obligé de prendre des gens inconnus, tout au moins inconnus, comme tête d'affiche. Et c'est ainsi que j'ai fait débuter Bécaud, Brassens, Juliette Gréco, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Eddie Constantine, autant de gens qui n'étaient pas vedettes avant l'Olympia, et qui ont été, on peut le dire, des créations de l'Olympia, puisque c'est l'Olympia qui leur a apporté la consécration et en même temps leur titre de gloire. Et en même temps qu'ils acquéraient ces titres de gloire, l'Olympia fabriquait une nouvelle population, une nouvelle couche de spectateurs pour le music hall.
Il y a des lieux qui sont particulièrement habités. C'est vrai que cette salle est complètement mythique et habitée de fantômes. Et je crois que c'est ça qui en fait la grande chaleur et le grand mystère et la grande joie pour les artistes de venir là. C'est parce que tout d'un coup, ils se trouvent sur cette scène sur laquelle sont passés les plus grands. Alors naturellement, il se passe quelque chose. On appelle l'Olympia un lieu magique, mais je crois que cette magie, elle tient surtout justement à ces 36 ans d'existence de cette salle.
Ça ne devait pas être comme ça en 1954, enfin en 52 quand Bruno l'a pris.
Oui, en 52, il l'a prise, mais vous savez, c'était un cinéma, donc il a fait du film avec attraction, enfin comme on faisait à l'époque.
Les marins qui meurent en mer et que l'on jette au gouffre amer comme une pierre, avec les chrétiens refroidis, ne s'en vont pas au paradis trouver Saint-Pierre. Il roule d'écueil en écueil dans l'épouvantable cercueil du sac de toile, mais fidèle après le trépas, le rame ne s'envole pas dans une étoile. Désormais voué aux sanglots par ce nouveau crime des flots qui teint la Navre, entre la foudre et l'océan, elle appelle dans le néant le cher cadavre. Et nul n'a pitié de son sort que la mouette au large essore qui, d'un coup d'aile, contre son cœur tout frémissant, attire et recueille en passant l'âme fidèle. L'âme et l'oiseau ne font plus qu'un, ils cherchent le corps du défunt loin du rivage, et c'est pourquoi sous le ciel noir l'oiseau jette avec désespoir son cri sauvage. Ne tuez pas le goéland qui plane sur le flot hurlant, qu'il effleure, car c'est l'âme d'un matelot qui plane au-dessus d'un tombeau et pleure, pleure.
C'est vrai que la grande dame a foulé ses planches, et je dois dire que c'est pour moi un grand souvenir de voir cette dame qui m'a expliqué, tu comprends, avec son bon accent parisien, tu vois, il faut que, mon petit gars, c'est qu'il faut que je mette la scène dans mes pattes. Et puis moi, le micro, je peux pas supporter ça. Être figé derrière un micro, c'est pas possible. Alors on lui avait mis toute une série de micros devant l'avant-scène. Et elle se baladait avec sa grande écharpe orange et sa robe de velours noir. Elle chantait les goélands avec des gestes prodigieux.
C'était à cette époque-là, vous avez fait passer des gens qui étaient de la génération d'avant-guerre,
oui.
Comme Damia, évidemment, et puis la génération des chanteurs de Saint-Germain-des-Prés, le style Rigauche, qui venait de chez Canetti aussi,
vous savez,
sur la rive
je
droite.
Je vais vous dire, on faisait les programmes avec ce qu'on pouvait, parce que bon, les chanteurs, il n'y en avait pas des bottes. Hein.
Comment est-ce que Bruno composait ses spectacles ?
En deux parties d'abord. Il faisait une première partie de carrément de musical, c'est-à-dire de variété, avec il y avait aussi bien des acrobates que des illusionnistes, que tout ça. Et d'ailleurs, je ne cesserai jamais de regretter ces premières parties.
Il y avait une chose qu'il y avait dans tous les musicals de Paris qu'il n'y a plus maintenant, si ce n'est dans les grands théâtres comme le Châtelet, il y avait une fosse d'orchestre ici.
Tout à fait. Il y avait une fosse d'orchestre justement qui est recouverte par ce plateau qui avance. Et il y avait un orchestre d'une quinzaine de musiciens. Et je dois dire que ça, c'était vraiment extraordinaire. C'est la poésie du musical. Moi, je me rappelle de ces musiciens avec lesquels j'étais très copain. Et je me rappelle en particulier d'un saxophone qui s'appelait Bébert. Et ce saxophone était extraordinaire, il jouait du saxo ténor, il jouait de son saxo, et là, sur le coin de la bouche, il avait la pipe. Il fumait la pipe en plein spectacle, et il jouait du saxophone en même temps. C'était assez surprenant. Et je dois dire, tous ces musiciens, c'était des personnages étonnants, qui avaient roulé leur bosse partout, et tous, je crois, doivent être morts, et en particulier le chef d'orchestre, qui était Gaston Lapéroni, pendant des années, et qui était un vieux copain de Bruno Gogatri. Je crois qu'il avait fait partie de l'orchestre de Bruno Gogatri en tant que trompette, et qui est venu diriger l'orchestre de la fosse pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où on a encore changé de ce côté-là les formules. Parce qu'après l'orchestre de la Péronie, on a eu un orchestre sur scène avec un chef d'orchestre qui s'appelait Daniel Janin. Et puis ensuite, on a adopté une autre formule. On a adopté la formule d'un orchestre qui était vraiment complètement construit avec ce qu'on appelait les requins, c'est-à-dire des excellents musiciens que je retrouve bien souvent, qui sont maintenant des gens assez âgés, mais qui étaient des merveilleux musiciens, les grenus, les rascaux, comment s'appelle-t-il, le trombone, enfin toute une famille de trombones qui était extraordinaire. Des gens remarquables, vraiment des grands musiciens. Jouer, hein. Ah, là, c'était des très grands musiciens qui lisaient, je pourrais vous raconter après certaines anecdotes à leur sujet, et ont changé de chef d'orchestre à chaque spectacle. Et ça donnait une tonalité, ça donnait une couleur différente. Ça a été une nouvelle, jusqu'au jour où les vedettes ont dit, oh ben non, l'orchestre de l'Olympia, on ne peut plus l'utiliser. Donc à ce moment-là, après 7 ans de vie commune, on s'est séparés. Et ces 7 ans ont été vraiment 7 ans de bonheur entre nous et les musiciens. Quincy a dirigé l'orchestre pour un spectacle dont les Platters étaient la vedette.
Ouais. Vous avez des souvenirs précis des Platters ?
Ah oui, les Platters, ben vous savez, ça a été... les Platters, on les a trouvés, je crois que c'est dans les années 60 aussi. Hein. Bon, Bruno Gogatrix et moi-même, on discutait tous les jours. Moi, de mon côté, j'écoutais les disques et puis je lui faisais entendre. Un jour, je lui ai amené ce disque des Platters, il était très enthousiaste. Et on a pris le contact avec un homme que nous avions là-bas aux États-Unis. Et qui a pris contact avec l'agent des Platters, qui s'appelait Buck Ram, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et nous avons conclu un contrat, et c'était assez étonnant, parce qu'ils sont devenus vedettes aux États-Unis après être passés à l'Olympia. Hein, parce qu'à l'Olympia, ils étaient vedettes américaines de Henri Jeunesse. imaginer un petit peu pour jeunesse que ça peut être difficile. Mais il s'en est très bien sorti. Parce que c'était quand même, à ce moment-là, c'était le rock'n'roll. Les Platters avaient été la vedette d'un film qui s'appelait, je crois, La Blonde et moi, dans lequel il y avait tout un tas de vedettes. Il y avait Little Richard, Chuck Berry, les Platters. Et c'était vraiment le commencement de l'époque du rock'n'roll. Et les Platters, chanteurs de rock'n'roll, étaient en vedette, en co-vedette d'un chanteur bien français, bien de chez nous, en l'occurrence Henri Jeunesse.
Pour Monsieur Cocatrix et all of his tricks. Les chansons. Spontaneous. Chanson Dark Town, Strutter's Ball, you all. The band starts playing.
Nous sommes dans le hall.
Dans la coupole. Alors naturellement, tout ça, vous voyez, c'est pareil. Tout ça a été modifié en 56, lors du grand changement de l'Olympia, parce qu'il n'y avait pas un bar comme ça. Tout était complètement différent. Et tout a été refait par l'architecte du moment, qui s'appelait Henri Rigal, qui a fait aussi le Lido, qui a fait plein de choses, qui a été un des grands architectes décorateurs de cabaret du moment. Donc vous voyez, et ce que Bruno a toujours recherché, c'est à faire cette espèce d'harmonie de rouge, de noir et de bleu marine, parce que il a toujours considéré que les lumières, que les couleurs d'un lieu comme l'Olympia, c'était toujours dans ces tons-là, c'est-à-dire le rouge, parce qu'il y a une couleur qui est chaude, et puis des couleurs qui, tout d'un coup, lorsque la lumière tombe, deviennent noires, ce qui fait que, en face de l'artiste, il n'y a plus qu'un trou noir.
Ce hall, il est extraordinaire parce que, bon, là, il y a la photo de Bruno qui trône au-dessus du passage qui mène dans la salle. Et puis, on voit des photos, il y a des noms comme ça. C'est étonnant de voir, Isabelle Aubrèche, Chante Aragon, Aznavour, Barbara, Brel, Cabrel, Ferrat, Lemel, tous des gens qui sont passés ici.
Tout à fait.
Et puis, Pierre Bachelet. Et
à part Aragon qui était dans la salle, mais sinon, ils sont tous passés là.
Et puis, Elsa. Donc, c'est un lieu où toutes les générations se sont toujours rencontrées.
Évidemment, ce qui a toujours été notre... Le musical, il n'y a pas d'ostracisme à l'égard de l'un ou de l'autre. L'Olympia reçoit tout. C'est pour ça que vous passez aussi bien un spectacle d'un pur classicisme comme Juliette Gréco à un spectacle de rock'n'roll deux jours après avec les Satellites ou des groupes comme ça. C'est ça le musical. C'est comme ça que nous, en tout cas, on l'envisage.
Ouais. C'est ça le musical. Ça me fait penser à Charles Trenet. Je crois que le premier passage de Charles Trenet ici, ça devait être 55. Ça a été un événement. C'est ce qui a.
Et oui, je pense que réellement, d'ailleurs, Bruno me l'a confirmé à différentes reprises que il a eu beaucoup de mal, naturellement, à faire sa programmation et il s'était appuyé sur un tas de nouvelles vedettes. C'est en l'occurrence Eddie Constantine, Fernand Reynaud, Georges Brassens. Vous voyez, des têtes nouvelles, Gilbert Bécaud. Et puis, naturellement, les grands classiques, ben, ma foi, ils ne se décidaient pas tellement. Et le fait que Charles Trenet soit passé à l'Olympia, je crois, donc en 54 ou 55, 55 je sais plus exactement, crois, vous avez les dates. Bon, eh bien, a ouvert les portes à un certain nombre d'artistes, a entraîné Edith Piaf, a entraîné tous ces gens-là à venir à l'Olympia.
Un morceau spécialement conçu pour concert. Les bœufs. Paroles de Dupont, musique de Durand, de Rossini. Arrangement spécial et contre-chant d'après la célèbre fugue et toccata en ut dièse mineur, adagio con largo mezzo voce soprani. En denté et en denté TX avec des spaghettis et des pommes pilées. Risotto, fruits rafraîchis, cigares, liqueurs. Drelin, drelin, premier service, les bœufs en voiture. Les bœufs. Et qu'est-ce que j'ai? De grands bœufs dans mon étable. Très juste. De grands bœufs blancs taffés de roux. La charrue est en bois d'érable. L'aiguillon est en branche de houx. Une, deux, trois, quatre. C'est par leurs soins qu'on voit la plaine. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oh, j'ai 20 mesures à compter d'ailleurs. Je me rappelle avoir créé cette chanson en 1922 à la Scala de Milan. J'avais un succès fou. Il y avait dans la salle le professeur Chant de Caruso, nom charmant du reste, qui m'avait dit: vous savez, mon cher maître, vous avez une fortune en le gosier, mais alors on travaille, en voici des bonnes lettres, des réflexes, des spectacles. Verte l'hiver, jaune l'été. Il gagne dans une semaine plus d'argent qu'il m'en a coûté. Il gagne dans une semaine plus d'argent qu'il m'en a coûté. Il gagne dans une semaine beaucoup plus d'argent. J'ai de grands bœufs dans ma grande étable, de grands bœufs blancs, d'immenses bœufs, des bœufs de 7 mètres de long sur 6 mètres 70 de large, des bœufs, de jolis bœufs qui font meuh, tachés de roux, la charrue est en bois d'érable, l'aiguillon en branche de houx. La charrue est en bois d'érable, la charable est en bois d'érable. Mais alors, l'aiguillon, en quoi est-il? Il est en branche du houx, je m'en doutais, la charrue est en bois d'érable, l'aiguillon est en branche du houx. La charrue est en bois d'érable, l'aiguillon branche du houx, la charrue est en bois d'érable, l'aiguillon branche du houx. Salut, et là, l'aiguillon, ou, salut, et là, l'aiguillon, ou, en branche du houx, en branche du houx, en branche du houx, en branche du houx. En branche du
concert de Sidney Bechet, le fameux concert.
Le concert de Sidney Bechet, je crois qu'il s'est situé en 55. Hein
oui, je crois bien. Hein, je crois bien.
Alors là, moi, j'y étais aussi. Ça, c'est, j'avoue que c'était un concert. Ça a été la première fois que j'ai vu l'Olympia dans cette date-là.
C'était le 19-10-1955. Ouais.
Et d'ailleurs, il y a eu un disque qui a été tiré par la Maison Vaux qui s'appelle « Le jour où l'Olympia fut détruit » ou un truc comme ça. Et je dois dire que c'était absolument ahurissant. Et je crois que c'est à la suite de ça qu'on a pu prendre la décision qu'il fallait absolument refaire un Olympia neuf, parce que ce concert, il y avait, c'était un concert gratuit en l'honneur de je ne sais plus quel disque d'or de Sidney Bechet, qui était un très gros vendeur à cette époque. Et devant la porte, ben, ma foi, il y avait 3000 personnes au lieu des 2000 prévues. Ces gens-là sont rentrés en force, passés à travers les glaces. Les glaces que vous voyez là étaient complètement démolies. Dans la salle, bon, ils ont commencé à s'installer naturellement les uns sur les autres. C'était une horreur. Et puis, il y a eu une première partie qui n'était pas très, très intéressante, j'imagine. Ça devait être un groupe français de jazz. Mais ils attendaient naturellement leur idole. Sidney Bechet, puis l'entracte leur a semblé un petit peu long, et pendant l'entracte, ça a commencé déjà à s'énerver sérieusement. Alors, il y avait des cadres autour de la scène, des cadres, fameux cadres Harcourt, qui ont commencé à voler dans la salle, à aller à droite, à gauche. Et puis, bon, le concert s'est passé dans une ambiance que vous pouvez imaginer, incroyable. Et quand les gens sont repartis, alors là, c'était le spectacle de désolation, parce que dans la salle, il y avait des rangées entières abattues, des fauteuils qui manquaient, parce que chacun était parti. Je partais avec son dossier de siège pour garder un souvenir, ou sa photo de Harcourt pour garder un souvenir. Alors, il a fallu rattraper tout ça. Et dans la salle, il y avait, en plus de... des programmes qui avaient été déchirés en menu papier pour faire, en somme, le défilé dans Brooklyn. Vous vous rappelez ce défilé où il y a tous les gens qui balancent du papier? Ben, c'était à peu près ça, l'Olympia. Et il y avait en plus de la bourre qu'ils avaient extrait des fauteuils. Ce qui fait que vraiment, une étincelle ou une cigarette mal éteinte là-dedans, ça aurait provoqué un incident absolument dramatique.
Vous allez pouvoir applaudir Sidney Bechet.
En Georges Brassens. Ben, le lendemain, on a quand même pu jouer avec le spectacle de Georges Brassens. Ouais. Mais c'est-à-dire que ce n'était pas évident.
Ouais. Georges Brassens qui a été amené ici par Patachou, je crois.
C'est-à-dire que Bruno, vous savez, en plus du fait qu'il était directeur, il était aussi éditeur, il était associé avec Ray Ventura. Et Patachou, naturellement, avait invité Bruno à aller écouter Brassens là-haut.
Sur la butte.
Hein. Et donc... Bruno avait pris un accord et j'étais devenu l'éditeur de Brassens. Donc il y avait des rapports privilégiés entre Brassens et Bruno, des rapports qui ont duré pendant des années, d'ailleurs parce que non seulement il était l'éditeur, mais il était aussi devenu très ami avec Georges, qui était un homme vraiment adorable. Et surtout, ce qui se passait, c'est que Bruno et lui faisaient le tour de chant de Brassens. Chaque fois que Brassens passait, eh bien, ils faisaient le tour de chant ensemble, c'est-à-dire l'ordre des chansons. C'était fait toujours par Bruno et par Georges, qui téléphonait. Même quand Brassens faisait son tour de chant à Bobino, il appelait Bruno en lui disant « Bruno, est-ce qu'on pourrait se voir? Je dois faire mon tour de chant. » Et l'ordre de mon tour de chant.
Si Georges Brassens, qui s'est produit à l'Olympia dès février 1954 dans le second programme, si Georges Brassens donc était attentif au conseil de Bruno Cocatrix, il en est un autre aussi qui était très attentif à ce que lui disait Bruno.
J'ai créé des chansons qui étaient un peu difficiles, par exemple comme le pianiste de Varsovie, qui à l'époque n'était pas connu, si vous voulez. Et quand j'ai créé cette chanson un jour, je me suis fait siffler. Les gens n'ont pas compris et ils ont pensé que je me prenais pour Chopin. C'est un malentendu, quoi. Donc la chanson était, en l'occurrence, mal faite.
Alors, Chopin n'a rien dit.
Je m'en pardonne.
Chopin n'a rien dit.
Chopin, non, il était sympa, il n'a rien dit. Mais par contre, le critique me dit, écoute, pourquoi tu t'emmerdes à chanter cette chanson alors que ça baigne dans l'huile, tout roule, enlève-moi ça. Mais je dis, mais je trouve ça joli, moi j'aime bien ce truc-là. Alors j'ai enlevé deux jours. Deux, trois jours, comme ça, je l'ai enlevé, puis je l'ai remis. Et mystérieusement, trois jours après, pourquoi, je ne sais pas, j'ai fait un gros succès avec la chanson auprès du public.
Je ne sais pas pourquoi. Et tout cela me fait penser à Chopin. Je l'aime bien, Chopin. Je jouais bien, Chopin. Chez moi, à Varsovie, où j'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin. Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Varsovie. Une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignon, un escalier en colimaçon, et tout en haut, mon professeur. Plus de sentiments, plus de mouvements, plus d'envolée, bien, plus léger. Joue mon garçon. Avec ton cœur, me disait-il, des heures, premier concert devant le noir, je suis tout seul avec mon piano, et ça finit par des bravos, j'en cueille par millions, à tous les coins de l'horizon.
Toute cette famille des Cocatrix, parce que ils se sont donné un mal fou. Hein. De Jean-Michel Boris à la petite, à tout le monde, Bruno n'en parlons pas, et puis il y avait des moments très très difficiles, ou les moments où disons que les recettes n'étaient pas formidables et que les charges étaient très lourdes. Et cette famille s'est battue, moi je l'ai vu se battre, cette famille. Mais souvent, très près du dépôt de bilan. Alors on voit les directeurs de théâtre comme des nababs, vous savez, en train de fumer du cigare et d'avoir des beaux costumes. Mais si vous saviez, comme quelquefois, c'était difficile. Et quand on allait dîner le soir avec Bruno là-haut, qui nous faisait des pâtes au saucisson, eh bien, croyez-moi, il y avait des moments où je le voyais les larmes aux yeux.
Il y a eu une période très dure. des problèmes d'impôts.
À la fin 59, c'est ça.
Ouais. Et Bruno, ben, il s'est mis dans son lit, il a mis la couverture par-dessus la tête, et puis il voulait tout laisser tomber. Et puis, bon, ben, Jean-Michel et moi, parce que Patricia n'était pas encore dans la... On s'est débrouillé comme on a pu, plutôt mal que bien. Et puis, finalement, Bruno de son lit, un jour, a émergé et a téléphoné à Piaf, qui était elle aussi dans son lit. Et ils ont commencé à échanger des coups de téléphone quotidiens, puis bi-quotidien, c'était des bulletins de santé, puis petit à petit, c'est devenu aussi des « et qu'est-ce que vous pensez faire bientôt ?» et qu'est-ce que, etc. Et puis, Piaf s'est décidé à revenir à l'Olympia, et elle a, on peut dire qu'elle a sauvé l'Olympia, elle est restée 12 semaines, et elle a sauvé l'Olympia.
De Michel Beaucaire et Charles Dumont, les flonflons du bal. Du mois, j'ai beau tourner ma clé à triple tour, ils sont toujours mêlés à mes histoires d'amour. Les plombs du bal, le long des murs sales, ont de part bouffée jusqu'à mon
C'était en décembre 1960, l'Olympia avait fermé pendant 3 semaines. Après Édith Piaf, nouveau succès avec Jour de fête et Jacques Tati, puis Robert Lamoureux, Michel Arnaud, et puis...
Le soleil qui se lève et caresse les toits et ses paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et ses paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et ses paris bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et ses paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir, et c'est Paris l'espoir.
des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, c'est Paris nous deux. Un regard qui reçoit la tendresse du monde et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, et c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, c'est Paris fini. Loin des yeux, loin du cœur, chassé du Paris. Dit, c'est Paris chagrin, mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les routes tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens.
Jacques Brel a fait partie d'un des premiers programmes de l'Olympia en 54. Où il est passé comme supplément au programme, c'est-à-dire il passait en numéro 2 et il chantait trois chansons. Avec beaucoup de succès, je dois dire, mais il n'en est pas moins vrai qu'un quart d'heure après, il n'y a plus un spectateur qui se souvenait de Jacques Brel et que même un garçon s'appelait Jacques Brel et que quelqu'un avait chanté des chansons qui avaient peut-être un peu secoué les spectateurs. Et ça a duré comme cela pendant 7 ans. Évidemment, il n'est pas resté pendant 7 ans supplément au programme. Il a gravi des échelons doucement, mais il les a gravis presque à l'ancienneté. Vous voyez. Il ne se passait rien. Je veux dire par là que à chaque fois dans la salle, il faisait un triomphe. Et le lendemain, personne ne parlait de Brel. Et puis tout d'un coup, il y a eu le miracle. Le miracle était en 61. Marlène Dietrich devait... Faire un contrat de 3 semaines à l'Olympia immédiatement après les débuts de vedette de Johnny Hallyday sur cette même scène de l'Olympia. Les deux contrats se suivaient. Johnny Hallyday, ça avait été une sorte de révolution. Du jour au lendemain, 5000 artistes s'étaient trouvés au chômage et 30 000 nouveaux étaient persuadés qu'ils allaient gagner des millions... dis-je des milliards, et évidemment, tous les gens qui m'avaient dit la veille des débuts d'Hallyday que j'étais complètement fou, le lendemain me disaient, mais Marlène Dietrich, qu'est-ce qu'elle va faire derrière? Or, Marlène Dietrich, pour des raisons tout à fait différentes d'ailleurs, m'envoie un télégramme qu'elle était malade ou que son répertoire n'était pas au point, enfin je ne me souviens plus quelle est la raison exactement, mais qu'elle demandait à ce que ce contrat soit remis à plus tard. Et je me suis donc trouvé à 15 jours des débuts de Marlène, sans personne comme tête d'affiche, et j'ai cherché et je ne trouvais personne. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah dans le fond, pourquoi pas Brel, on fera pas d'argent, mais je suis sûr au moins qu'on fera du succès sur le moment. Et le soir de la première arriva, et là survint le miracle. Si bien que ce soir-là, Brel, tout d'un coup, est sorti de l'inconnu. Pour devenir une des plus grandes vedettes qui existent. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a eu une réaction contre le succès d'Ali.
I gotta go. They almost drive me crazy. Got it.
Comment est-ce que Bruno réagissait, Bruno Coquatrix réagissait par rapport à l'évolution des modes et des vagues successives de la chanson?
Écoutez, il se voulait toujours à l'avant des modes.
Ouais.
Et il a été, en fait, il a été un précurseur dans ce métier. Je crois avoir dit que ce métier aurait existé sans lui, c'est sûr, mais qu'il a eu 10 ans d'avance pour tout.
Ça s'est passé comment, cette période de yéyé, où ça a été une rupture tout d'un coup?
Mais alors, c'est complètement adapté. C'est Je ne vous dis pas, très franchement que c'était exactement sa cup of tea, ouais. Mais bon, puisque c'était ça que le public voulait, il fallait donner ça au public. Ouais.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
J'avais reçu des photos qui m'avaient accroché, puis surtout un petit 45 tours qui m'avait bien plu. Je l'avais écouté, j'avais appelé la maison Odéon, qui était à ce moment-là la maison qui avait ce disque. J'avais parlé avec un copain qui s'appelait Christian Def. Je lui ai dit, dis donc, ce groupe-là, il me semble avoir un tonus particulier, une écriture, une couleur de chanson assez étonnante. Il s'agissait des Beatles. On avait reçu les fameuses photos, on les voyait habillés dans leurs petits costumes bien serrés avec le petit col Mao, plus cette espèce de coiffure aux enfants d'Edouard. Et on a filé un jour en Angleterre voir Brian Epstein, qui était leur manager, qui était le cinquième Beatles en somme, parce qu'il a été un personnage très très important. Et on a mangé chez Prunier là-bas à Londres. Et on a signé le contrat des Beatles dans des conditions absolument extraordinaires, puisque le contrat était un contrat de 1500 francs par jour. Et on est reparti tout heureux avec ce contrat, sans savoir ce que nous allions en faire, étant donné que les Beatles, à ce moment-là, n'étaient absolument pas les vedettes qu'ils sont devenus par la suite. C'est bon.
Voilà, alors là aussi, dans les coulisses, on retrouve les couleurs avec le rouge, le noir.
Il est évident que les coulisses, c'est un lieu qui peut-être d'une grande tristesse, mais je ne sais pas, les coulisses olympiennes, je ne les ai jamais trouvées tristes, parce que il y a tellement de gens qui se sont baladés. Moi, je vois encore, vous voyez, je m'assieds là, puis tout d'un coup, je me retrouve avec Bruno Coquatrix qui faisait les 100 pas ici, en parlant. À mon avis, il devait faire 5-6 kilomètres tous les soirs. En allant du bar à la glace, il y avait une glace là-bas,
Et il parlait, il faisait aller-retour. C'était assez étonnant. Et ça, c'est une image qui me restera toute ma vie, j'imagine.
Et puis le bar de Marilyn qui se trouve là, le bar qui était autrefois celui de Mimi.
Voilà, exactement.
Alors, Mimi, elle m'a sorti... Mimi nous a raconté quelques souvenirs et elle m'a donné... Parce qu'il est venu des tas de gens ici, on ne peut pas les comptabiliser.
Oh,
mais il y a un personnage que vous avez rencontré qui s'appelle Bernard Dimet.
Ah, oh, ben je comprends, Bernard a passé des soirées et des nuits pratiquement ici au bar.
J'aimerais tant voir Syracuse et bien d'autres textes.
Et il avait fait une chanson au bar des artistes.
Oui.
Oh là là, et la chanson pour Mimi, vous voyez. Hein. Oh là là, sacré Bernard.
Dans la salle du Grand Music Hall, il y a le tout Paris des premières. Les rois du rire ou du pétrole, des barytons, des jeunes premières, des grands danseurs et des marquis. Quelques ténors de la finance qui tiennent des propos exquis en attendant que ça commence. Mais là-bas, derrière le plateau, il y a tous ceux qui sont sur la brèche, avec un trac fou dans la peau, terrorisés par la panne sèche, qui vous laissent là les bras ballants, des courants d'air dans la cervelle, épouvantés, claquant des dents, et le visage qui ruisselle. Et il y a le sourire de Mimi derrière son bar, dans les coulisses, tranquille, elle attend que ça finisse, et rigole avec les amis. Elle peut dire qu'elle aura tout vu, au grand carnaval des artistes. Le baratin des matues vues, la tour de Babel des coulisses. Elle n'a pas vu la Belle Époque, ni Bruant, ni la grande Yvette, quand elle chantait du Paul de Kock et que débutait Miss Tinguette. Par contre, elle connaît bien le nerveux qui toit les pianos sous ses pattes et celui qui sue tant qu'il peut en marmonnant dans ses moustaches. La plus grande dame de la chanson, celle qui mesure 1m50. Ils sont venus là sans façon. Et s'ils reviennent l'année suivante, il y aura le sourire de Mimi, comme toujours au bar des artistes. Viens donc faire un tour en coulisses. On dira bonjour à Mimi. Alors ça, ce texte-là, Mimi, ça a été écrit spécialement pour vous.
Oui. J'adorais Bernard. Nous passions des soirées entières ensemble. Il était là, à mon bar, devant le comptoir. Il bavardait avec les uns les autres, mais il était toujours avec moi.
Alors le bar de l'Olympia, vous l'avez connu entre 1954, c'est-à-dire le premier spectacle, jusque vers 1968, c'est ça?
Le bar de l'Olympia, des coulisses, je l'ai pris en 1950. L'Olympia a ouvert hein, le 5 février 54 et j'ai dû le prendre un an et demi après parce que j'avais pris un bar dans la salle. J'ai eu le tout Paris et le monde entier. J'ai eu toutes les vedettes du monde entier. Incroyable. J'ai eu les Platters, j'ai eu les Rolling Stones et les autres là.
Les Beatles.
Et quand ils sont sortis du plateau, tout ça est venu dans mon bar et tout ça buvait des Coca-Cola, serrés les uns contre les autres, vous savez. J'ai eu le monde entier dans mon bar. J'ai eu le Cirque de Pékin, avec qui j'ai passé un mois avec le Cirque de Pékin. Sensationnel.
Le spectacle le plus important de l'Olympia, celui qui reste dans votre esprit comme le...
La revue de Joséphine Baker.
Ouais.
Pendant un an, nous avons eu cette revue. Et ça a été aussi quelque chose de merveilleux.
Dans un musical, c'est comme dans tous les théâtres, Marcel et Alberto, il y a des machinaux, c'est-à-dire ceux qui sont chargés des basses besognes, mais qui ont quand même l'oreille et l'œil. C'est important, Alberto. Hein.
C'est sûr, ça compte pas mal d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... des débutants, finalement. Hein. La première fois, quand ils passent, ils ont le tract, eux, mais nous aussi.
Bien sûr.
Parce que... On est toujours attentif à leur succès qu'ils peuvent avoir. Alors là, on est là pour les pousser, pour les soutenir, pour les conseiller en même temps. Les préparatifs d'un spectacle, c'est dur et nerveusement, c'est fatigant. Mais c'était le rêve de notre patron, tourner nuit et jour. C'est lui, on a même fait la messe le matin ici.
Pareil, oui.
Ah, hein, vous êtes au courant.
Avec le père Duval. Ah, c'est
ouais,
ça
ouais.
Ouais. Ça commence à quelle heure la journée d'un machinot, un jour de général comme aujourd'hui?
Aujourd'hui à 8h.
8h du matin.
Oui, oui. Le matin.
Jusqu'à minuit. Jusqu'à la fin du spectacle.
Merci messieurs les machinots.
Ah, merci beaucoup.
Alors, nous avons quitté les coulisses, quitté le plateau, quitté la salle. Nous sommes montés dans l'administration du musical ou du théâtre. Ah, vous dites, Yvette, vous qui êtes la secrétaire de Jean-Michel Boris, vous dites le temple, pourquoi?
Bon, oui, parce que quand même, l'Olympia, c'est un endroit où tous les artistes ont connu la consécration. C'est un monde à part et en même temps, on travaille tous. Enfin, je pense que vous avez un peu vu l'ambiance qui règne ici, qu'on est peu nombreux, mais on se donne vraiment maximum.
Et justement, c'est une équipe de combien de personnes, l'administration de l'Olympia?
C'est-à-dire que l'Olympia se divise en plusieurs endroits, déjà. Donc, il y a tout ce qui concerne le plateau, les techniciens, vous avez vu en bas. L'administration à proprement parler, c'est-à-dire nous, mesdames Cocatrix, les gérantes et directrices de l'Olympia, Jean-Michel Boris, qui est directeur administratif, Christian Chassin, son assistant, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le rencontrer, Muriel Rouault et moi-même au bureau, donc on est 2, 3, 4, 5, quoi. Voilà, donc à l'administration. Et ensuite, il y a les différents services de location, de place, et qui gèrent les ventes de places, comptabilité et autres. Mais bon, ici, au 8, on est 5 personnes. Donc on travaille vraiment, c'est la famille, quoi.
Patricia Cocatrix, vous êtes la troisième personne du Triumvirat. Parce que c'est un Triumvirat, je voudrais justement vous poser la question de savoir comment, d'une part, vous avez repris l'Olympia lorsque votre papa nous a quittés. Et puis, comment il fonctionne, ce Triumvirat, qui est la direction de l'Olympia?
Absolument. En fait, à la mort de mon père, le 1er avril 1979, il n'était pas question, dans notre tête, d'arrêter. Donc, en fait, on a lié nos efforts à tous les trois. On a essayé de faire ce que lui seul faisait. Comment dirais-je? On a essayé de surtout que l'état d'esprit de la maison reste le même que celui qu'il avait créé et fabriqué de toutes pièces.
Est-ce que vous pensez que l'état d'esprit de l'Olympia, tel que l'a voulu Bruno Cocatrix dans les premières années, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas évolué avec le monde de la chanson et du spectacle?
Non, dans la mesure, il a évolué, bien sûr, le but, la mission de mon père, c'était de faire découvrir des talents nouveaux. L'Olympia n'est pas un garage. On le loue rarement et pour des concerts exceptionnels, mais nous sommes toujours ou producteurs, donc responsables financièrement des risques que nous prenons, ou nous sommes co-producteurs avec, des personnes qui s'occupent de la dite vedette. Et les risques, bien entendu, très souvent nous avons sorti depuis la mort de mon père un certain nombre de vedettes, même beaucoup, Cabrel, Bachelet, Patricia Cass, Elsa, Renaud, et tout ça, c'était la première fois des risques. Parfois, il y en a maintenant qui vont dans de très très grandes salles, mais les risques sont minimes. Les premiers risques, c'est nous qui les avons pris. Quoi qu'il arrive, même si nous avons des choses différentes à faire, les uns et les autres, aucune décision de programmation n'est faite sans l'accord des trois personnes.
Got a heart of stone that cares for nobody, lips as sweet as cherry wine, and you're addicted so very quickly, you just have to look into her eyes. She's an assassin of love. She's an assassin of love.
sommes dans les coulisses pendant l'entracte, ce qui explique qu'on entend une effervescence importante. Anne-Marie Pacotte, vous êtes critique à Télérama, critique de variété.
Oui.
Quand vous venez à l'Olympia, Anne-Marie Pacotte, qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
De toute façon, c'est déjà un plaisir, parce que je trouve que... Moi, j'ai commencé ce métier, je suis déjà quasiment chenue, parce que j'ai commencé il y a une douzaine d'années. À l'époque, il y avait toute la rue de la Gaîté, dans le 15e, était une rue extraordinaire, où il y avait un théâtre tous les trois pas.
Ça, c'est Bobino.
Et ça, c'était formidable. Il y avait Bobino, il y avait la Gaîté Montparnasse, il y avait le théâtre de Poche, il y avait... C'était fou, il y avait un bistrot en face de la... de Bobino, on faisait les troisième mi-temps et même les entractes, et puis tout ça a disparu, et le seul musical qui reste, qui est digne de ce nom, c'est l'Olympia, quoi qu'il se passe au Zénith et à Bercy, où il peut y avoir des soirées formidables, hein. Mais il y a les petits théâtres, il y a les grosses salles, et puis il y a l'Olympia, où il y a toujours quelque chose, même si c'est pas tout à fait ça, il y a forcément quelque chose.
Quels sont vos grands souvenirs, hein, depuis quelques années que vous faites ce métier de critique?
Ben, à l'Olympia, il y a plein de bons souvenirs, il y a plein de moments extraordinaires et dans des domaines totalement différents les uns des autres. À l'Olympia, il y a aussi bien... Moi, j'ai souvenir de moments extraordinaires, comme par exemple Willie DeVille, qui à l'époque tournait avec un groupe qui s'appelait Mink DeVille, qui est un Américain, portoricain, latin, inattendu, qui faisait attendre la salle jusqu'à 11h du soir. Ici, il y a eu des soirées mémorables. Mais quand il arrivait, c'était extraordinaire. Les murs ruisselaient tellement... On s'empilait jusqu'au plafond et c'était fantastique. Et Willie DeVille, qui est donc un Américain, disait « Moi, j'adore l'Olympia ». Il dit toujours « J'adore l'Olympia » parce qu'on passe, quand on passe ici, on sent le fantôme de Piaf. Et c'est vrai, c'est une salle où il y a tellement eu de gens qui se sont donnés avec une générosité et un trac fou que ça se sent, quoi. L'Olympia a participé à l'arrivée du rock en France. Et aujourd'hui, je pense que Paolo Conte ne serait pas la vedette qu'il est en France s'il n'y avait pas eu l'Olympia. Ça a été le symbole de « ça y est, il est dans la course maintenant ». Il fera peut-être le Zénith la prochaine fois, j'en sais rien. Mais aujourd'hui encore, malgré la concurrence des grandes salles, parce que c'est vrai que les chanteurs ont plutôt tendance à faire trois fois Bercy que 15 jours l'Olympia, ça va plus vite, ça reste un passage initiatique, pas forcément obligé au sens show business du terme, mais au sens symbolique du terme, au sens de l'intimité avec le public, de la storia d'amore, comme dit Conte, avec le public, l'Olympia, ça reste quelque chose d'important.
Dimmi chi sei, pensaci un attimo, comodo qui, très blasé. Dimmi chi sei, domanda scomoda, vuoi che sia diplomatico. Solo pur ce la sai. Dimmi, dimmi chi sei, tu come stai?
C'est avec Paolo Conte que nous allons quitter l'Olympia, dont je remercie la direction et tout le personnel de nous avoir accueillis vraiment très très gentiment. Opus à l'Olympia, une émission proposée par Thierry Aveline, Archive INA, Jacques Sevel, Françoise Mahati, à la discothèque de Radio France, Marie-Hélène Elbaz, machiniste preneur de son à l'Olympia, Bernard Manteau, machiniste chargé du mixage, Philippe Destrebecq, au rideau et à la réalisation, François Viette.
C'est vraiment mythique, parce que c'est le mythe, l'Olympia. vieni via di qui. Niente più ti leggo questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful that we're with you. Chips, chips.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 juin 1991. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.